je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Je vous propose pour notre 51e émission de parler de Jacques Catala, voltigeur sous Napoléon III. La découverte du livret de campagne de Jacques Catala m'a beaucoup appris sur cette période du Second Empire et ses conflits lointains. Ce jeune soldat de Bérat, qui durant ses 6 ans de service militaire a parcouru tous les champs de bataille du Moyen-Orient et de l'Europe. Merci donc à la famille de ce héros qui a noté jour par jour les étapes de son service à son empereur et qui recevra un certificat de bonne conduite et la médaille de la campagne d'Italie comme remerciement de la nation. Jacques est né le 20 novembre 1834 à Bérat, canton, alors, de Carbone. Dans la propriété familiale actuelle de la famille, au lieu dit les Bouillats. Sur son livret militaire, on note taille 1 m 600 mm, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, visage ovale. Jacques présente une écriture bien marquée, de pleins et déliés. On sent un apprentissage de la lecture et écriture bien enseigné chez les religieuses à Bérat. Et bien sûr, des fautes. Beaucoup de noms de villes écrites phonétiquement, on perçoit son accent du midi au doublement de certaines lettres. Beaucoup de lignes sont quasiment illisibles, le tout nécessitant une loupe afin de réécrire. Quelques prières à la fin du carnet, à la Vierge Marie, montrant sa foi, l'accompagneront dans ses campagnes. En cette année 1855, la France organise la seconde exposition universelle après l'Angleterre en 1851. Les deux nations sont maintenant alliées, mettant fin à 400 ans de conflit. Napoléon III et l'impératrice se rendent en Angleterre ce mois d'avril et Victoria viendra visiter l'exposition en France fin août. Napoléon III est dans une période faste, bien qu'il échappe à 2 attentats cette année-là, l'un à son retour d'Angleterre, l'autre à l'automne. Bientôt, l'impératrice donnera un héritier à l'Empire. Jacques Catala part, lui, pour 6 ans de service militaire, ce 28 mars 1855. Selon la loi Gouvion-Saint-Cyr, revue en 1818, le recrutement militaire se fait désormais par le volontariat et par tirage au sort. Il est possible de payer pour acheter un remplaçant. Ce système durera jusqu'en 1872. Nous ne savons pas si Jacques a pris la place d'un autre, moyennant finances, ou si, désigné par le sort, il part par devoir. On ressent néanmoins une volonté de servir son empereur et sa patrie. Jamais un mot de découragement ou de refus de servir. Jacques quitte sa famille d'agriculteurs. On sait combien manquent les bras d'un jeune de 21 ans dans le fonctionnement d'une ferme à cette époque. Son père, Jean-François, exploite une petite propriété de 10 hectares. Il a 2 vaches, des volailles et cultive la vigne et des céréales. Après avoir rejoint Toulouse à pied, un groupe est constitué. Des soldats d'active sont chargés de l'encadrement et on mettra 19 jours pour arriver à Gap. D'étape en étape, couché sous tente ou baraque. Là, dit-il, nous en garnisons. Tout le long du chemin, il nous donne le nom des villes parcourues, nous décrivant la beauté du Languedoc. À Gap se trouve son régiment, le 21e d'infanterie de ligne, et la formation militaire va durer jusqu'en juillet. Le 21e régiment de ligne est un des plus anciens régiments du monde. Il est créé en 1589. C'est un régiment d'élite. Le rôle du voltigeur, qui est un fantassin de première ligne, est de rechercher le contact avec l'ennemi, engager le combat, gravir les collines, traverser les fleuves, agir comme éclaireur et affaiblir l'ennemi en le harcelant sur ses flancs. Souvent, les voltigeurs montaient en groupe avec les cavaliers pour aller au plus près du combat et le plus vite possible, d'où leur faible poids. Les voltigeurs sont donc de corpulence faible, vifs. Ils tiennent la gauche dans le bataillon rangé en bataille. Le 20 juillet, le régiment part alors à pied pour embarquer à Toulon, 9 jours après. On embarque sur le Valmy pour la Crimée. En prenant la mer, Jacques pense au naufrage de la Sémillante dans le golfe de Bonifacio, survenu le 14 février, en partance pour la Crimée avec 773 victimes. Aujourd'hui, dit-il, la mer semble calme. Le Valmy est le navire amiral de la flotte française. Il a été armé à Brest en 1847. C'est le dernier bateau de guerre à voile de la marine française. Il possède 116 canons et transporte 1500 soldats. Jacques est embarqué dans cette galère qu'est le conflit russo-ottoman. Jacques se souvint alors du discours de Napoléon III prononcé 3 ans plus tôt, en 1852, à Bordeaux. « L'Empire, c'est la paix ». Il pensera souvent à cette phrase, mais acceptera son sort par patriotisme, une certaine résignation et confiance. Le conflit met en présence les alliés, Empire ottoman, Royaume-Uni, Royaume de Sardaigne et France, contre l'Empire russe. Les hostilités ont débuté en 1853 pour des raisons de suprématie dans cette zone où la Russie tente de gagner des ports sur la mer Noire. Les Alliés ciblent leur stratégie sur la Crimée. Après les victoires à Eupatoria, l'Alma, où s'illustrent nos zouaves, le nord de Sébastopol est ainsi conquis. Dès lors, le siège de Sébastopol est l'ultime but, mais cela traîne. De nombreux tués, des maladies, dysenterie, scorbut, choléra déciment les troupes. Le maréchal Armand de Saint-Arnaud, ministre des armées, désigné par Napoléon III pour le représenter sur le terrain, meurt du choléra. 11 mois de siège seront nécessaires afin de venir à bout des Russes. Notre ami Jacques arrive au moment même où Sébastopol chute après la prise du fort de Malakoff par MacMahon et sa fameuse phrase « J'y suis, j'y reste ». La prise du fort est l'élément décisif de la capitulation russe. Avant cela, le Valmy est passé par le détroit des Dardanelles, la ville de Gélibolu, la mer de Marmara, Constantinople et le Bas-Port. Enfin, la mer Noire et le port de Kamesh. Le débarquement a lieu le 14 novembre au sud-ouest de la ville, secteur des Français. Le logement, nous dit-il, dans des baraques, en planches. Le temps du voyage nous semble très long, car parti à la fin de l'été, il n'arrive que mi-novembre. Certes, il y a des escales, mais le Valmy est un voilier. Et avant lui, les autres navires à voile transportant les troupes et le matériel, comme le Ville de Paris, sont restés bloqués dans le détroit des Dardanelles, par vent contraire. Alors, on fait appel au Napoléon. Seul navire à vapeur à hélice d'une puissance de 90 canons, afin de tracter le convoi. Cela a entraîné une polémique au sein du gouvernement. La presse s'est emparée de cet incident et a critiqué vivement l'armée. Tout cela va inciter le gouvernement à modifier tous les navires à voile. Une loi dès 1857 va les mécaniser et transformera à aube ou hélice les navires à voile. La technique d'ailleurs consiste à les partager et monter le système à vapeur et à aube. Et vont ensuite se construire en série des bateaux à hélice. C'est en Crimée que vont être utilisées pour la première fois des batteries flottantes, blindées, pour bombarder les positions adverses. Trois vont arriver fin 1855, après 45 jours de mer. Deux seules vont être utilisées. Elles sont remorquées, mais ont une propulsion quand même propre pour leur installation. 16 canons et 19 batteries nécessitant quand même 280 soldats. Elles sont disposées à 1,5 km de la cible et leur objectif est la prise de la citadelle de Kingsburg, qui sera un succès déterminant le 17 octobre 1855. Face à Sébastopol, les Anglais occupent la zone des ravins sud. Ils ont construit une voie ferrée pour l'approvisionnement des troupes. On remarque pour la première fois sur le terrain la présence de journalistes et photographes, comme l'Anglais Roger Fenton, qui nous fait vivre le quotidien et nous montre le rôle joué par les vivandières chargées de l'intendance des troupes et des bivouacs. Ce siège qui se termine le 8 septembre 1855 fera 15 000 morts chez les Alliés, et 30 000 chez les Russes. Le rôle de Jacques Catala, après sa quarantaine, est d'entrer dans la ville entièrement détruite, afin d'organiser l'occupation et mettre de l'ordre, éviter les pillages. Il nous fait part d'une ambiance morbide, le sol entièrement recouvert de boulets, criblé de balles, de restes humains, de canons explosés, de fumée nauséabonde, de sacs de sable effondrés et des épaves dans le port des bateaux russes sabordés. On occupe ensuite le fort Nicolas où il est encaserné. C'est, dit-il, le fort le plus grand de tous. Il cite le fort Rond, Sainte-Catherine, le fort de la Quarantaine, le fort Saint-Paul et les énormes dégâts dus aux obus. Enfin, la tour Malakoff, avec une tranchée garnie de cadavres, s'amoncelant au pied d'une croix. Le bilan de la guerre de Crimée est lourd. Nous sommes partis 310 000 Français, 98 000 sont morts. Jacques Catala note « Unis pour la victoire, réunis par la mort de nos soldats, c'est la gloire des braves, c'est le sens. » Seuls, nous dit-il, l'église et la maison du général restèrent debout. Après une occupation de la ville, la paix est signée le 15 mars. Elle se solde par le traité de Paris, le 30 mars 1856, qui établit la neutralité de la mer Noire. Jacques ne repartira que le 1er juin 1856 de Sébastopol. Au retour, près de la Turquie, à Gallipoli, le bateau a été attaqué le 15 juin dans la nuit. 4 morts et 20 blessés sont à déplorer. Jacques Catala nous dit avoir manqué d'être coulé, mais il ne dit pas qui est l'attaquant. Il reste encore quelques flottilles belligérantes dans le bassin méditerranéen. Le bateau français va passer par Malte, possession anglaise, afin de réparer et hospitaliser les blessés. La Valette, de par ses fortifications de pierre, la beauté de son port, gardé par des échauguettes à la Vauban, plaît à Jacques, mais l'étape est courte. Le voyage se termine à Marseille le 19 juin et, après un jour et demi au Nazaret, le 21e de ligne sera embarqué dans un vapeur pour Port-Vendres, de là Perpignan, à pied. Après quelques semaines, Jacques Catala va rejoindre la citadelle de Montlouis, qu'il décrit avec beaucoup de précision. L'hiver y sera particulièrement froid, mais la beauté du Canigou sous la neige l'interpelle. Au printemps de 1857, le 27 avril, le 21e de ligne est envoyé à Avignon. Le 9 mai, les voltigeurs y arrivent pour être en garnison. Tout le long de cette aventure pédestre, Jacques observe les monuments. Il est impressionné par le palais des papes et sa description précise et historiée fait preuve d'une culture pour l'art surprenante à cette époque. Tout l'été est calme. Des manœuvres entretiennent l'esprit de camaraderie, la forme du soldat et la résistance à la chaleur. Enfin, j'obtins une permission renouvelable le 3 décembre et grâce au chemin de fer, j'arrive à la maison le 5, à pied bien sûr. Depuis Toulouse. La joie est immense pour lui et toute la famille et ses parents. Tous pleurent. Ainsi Jacques restera, semble-t-il, à Bérat, une grande partie de 1858. Il retrouvera ses amis à la foire de Rieum. Il relatera ses exploits en patois, offrant une coupe d'ébis. Il aidera ses voisins. Nous sommes au moment de Noël et bientôt on tue les cochons chez les uns et les autres. Toutes ces activités essentielles pour les paysans sont des occasions festives. On taille la vigne en février. Le cycle des saisons l'amènera jusqu'aux vendanges sans inquiétude. Le monde semble provisoirement en paix. Nous ne savons pas si Jacques a une promise. Il est très discret sur ses relations féminines. Sa future épouse sera de Martre-Tolosane, mais il ne se mariera que plus tard, à la trentaine. Nous terminons ici notre première émission concernant la lecture du livret de campagne de Jacques Catala, voltigeur dans les armées de Napoléon III, parti pour la Crimée en 1855. Mais des aventures militaires plus terribles attendent notre ami. Je vous les conterai le mois prochain sur Radio Galaxie, 98.5. Merci de votre écoute. retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.